mon rachis boîte est au micro. Excellente soirée à l'écoute.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 22 mars 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Dans l'ouest du Niger, au moins 60 à 80 civils ont été tués dimanche dans de nouvelles attaques contre trois villages près de la frontière malienne. Mort de l'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolelas, principal rival de Denis Sassou Nguesso au lendemain de la présidentielle. L'ancien président tanzanien John Magufuli a été enterré aujourd'hui à Dodoma en présence de plusieurs chefs d'État africains. Au Nigeria, près d'un enfant sur trois manque d'eau potable, rapporte l'UNICEF à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Des dispositions sont prises pour accélérer la vaccination contre le coronavirus dans le monde. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Niger, de nouvelles attaques terroristes ont fait au moins 60 morts dans la région de Tawa dimanche. Les assaillants venus à moto ont pris pour cible les habitants de trois campements près de la frontière malienne, avec le même mode opératoire que l'attaque de la semaine dernière dans la région de Tillabéri, qui a coûté la vie à 58 civils. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Il n'y a toujours pas de source officielle qui parle de ce nouveau massacre qui a fait au moins 60 morts selon des sources locales. Plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. 60 civils qui viennent s'ajouter aux 58 autres décédés le 15 mars dernier dans la région de Tillabéri. Comme là-bas, à Tilia aussi, ce sont des hommes armés venus à moto qui se sont pris aux habitants de trois campements du département de Tilia dans la région de Tawa dimanche après-midi. Les trois campements sont situés pas loin de la frontière malienne dans cette partie de la région de Tawa où le gouvernement a décrété depuis 2017 l'état d'urgence. Cette attaque intervient à quelques jours de la prise de fonction du nouveau président Mohamed Bazoum. Mercredi, le président sortant Issoufou Mahamadou lancera un forum à Niamey sur la stabilisation des zones de conflit et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Cour constitutionnelle nigérienne a confirmé hier dans un arrêt l'élection du candidat du pouvoir Mohamed Bazoum comme nouveau président du Niger avec plus de 55% des suffrages. Les résultats définitifs du second tour de la présidentielle du 21 février, proclamé par la Cour, donnent vainqueur Mohamed Bazoum avec 55,66% des voix contre 44,34% pour Maman Ousmane. Monsieur Bazoum succède à Mamadou Issoufou, arrivé au terme de ses deux mandats. Plus de 2 milliards de personnes dans le monde vivent sans accès à de l'eau potable et près de 3 milliards n'ont aucun moyen de se laver les mains. Au Nigeria, près d'un enfant sur trois manque d'eau, avertit l'UNICEF à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
D'après le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus de 1,42 milliard de personnes, dont 450 millions d'enfants dans le monde, vivent dans des zones où l'accès à l'eau est très préoccupant. Au Nigeria, où près de 27 millions d'enfants, soit 29% des enfants du pays, ont un accès insuffisant à l'eau pour couvrir leurs besoins quotidiens. 86% des Nigérians n'ont pas accès à une eau de qualité. Les conséquences sur l'éducation et la santé sont lourdes, déplore Peter Hawkins, représentant de l'UNICEF au Nigeria. Selon lui, lorsque les puits s'assèchent, les enfants ratent l'école pour aller chercher de l'eau. Lorsque les sécheresses réduisent les réserves alimentaires, les enfants souffrent de malnutrition et de retard de croissance. L'UNICEF précise qu'en Afghanistan, en Éthiopie, au Pakistan et au Soudan, les enfants ont également un accès difficile à l'eau. Pour cette agence onusienne, la crise mondiale de l'eau n'est pas à venir, mais elle est déjà là et les enfants en sont les premières victimes.
En République du Congo, la mort ce matin de l'opposant Guy Brice Parfait Kolelas a apporté une note d'imprévu à l'élection présidentielle de dimanche. Le président sortant Denis Sassou Nguesso mise sur une réélection dès le premier tour. Le point avec John Lyndon.
Testé positif au Covid-19, Guy Parfait Colella, 60 ans, est décédé en France ce matin, peu après l'arrivée de l'avion médicalisé qui était venu le chercher à Brazzaville hier après-midi, avant la fermeture des bureaux de vote. À l'annonce de sa mort, la situation est restée calme et la circulation normale à Brazzaville, où les résultats de la présidentielle sont attendus dans la semaine. La commission électorale a promis les premières tendances pour aujourd'hui. L'opposant a publié samedi une vidéo disant « Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever, allez voter pour le changement. Je ne me serais pas battu pour rien », affirmait-il dans cette vidéo alité et affaiblie. Il apparaissait comme le seul vrai rival de M. Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 cumulés au pouvoir. Le président sortant a fait campagne sous le slogan « Un coup KO », exprimant sa volonté de l'emporter dès le premier tour. Dans les quartiers sud de Brazzaville, fief de Colella, l'ambiance est restée normale et la population a repris ses activités au lendemain du vote.
Le chef d'état-major des armées françaises, le général François Lecointre, a contesté les accusations sur le rôle de l'armée française pendant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. « Je lis des accusations que je trouve insupportables et complètement folles », a déclaré François Lecointre sur la chaîne BFM TV. Le général était capitaine lors de l'opération turquoise organisée par la France au Rwanda. En Tanzanie, plusieurs chefs d'État africains ont salué ce lundi la mémoire de l'ancien président John Magufuli lors de funérailles nationales organisées dans la capitale Dodoma. John Magufuli, 61 ans, est officiellement mort mercredi de problèmes cardiaques. 9 chefs d'État africains, dont ceux du Kenya, de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo, étaient présents à cette cérémonie. Le tribunal d'Alger a émis des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de 4 activistes établis à l'étranger, des influenceurs et un dirigeant d'un mouvement islamiste interdit, accusés d'appartenir à un groupe terroriste. Les personnes visées sont Mohamed Larbi Zeitout, un ancien diplomate résident au Royaume-Uni, Amir Boukroz, blogueur connu sous le nom d'Amir Dizi, Hichem Abdou, journaliste, et un certain Mohamed Abdella. La Mauritanie a annoncé avoir renoué ses relations diplomatiques avec le Qatar, rompues depuis juin 2017, à la suite de la crise entre Doha et ses voisins. Cette annonce fait suite à un entretien dimanche à Doha entre le chef de la diplomatie mauritanienne Ismaël Ould Ahmed et son homologue qatari Mohamed Ben Abderrahman Al Thani. Les deux pays ont décidé l'ouverture des deux ambassades dans les plus brefs délais, indique un communiqué. Une fillette malienne de 2 ans qui avait été secourue à bord d'un bateau de migrants au large des îles Canaries est morte dimanche à l'hôpital, ont annoncé les autorités de l'archipel espagnol. L'enfant faisait partie des 52 passagers africains secourus mardi dans une embarcation qui avait été transférée au port d'Arguineguín par les secours maritimes espagnols.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des dispositions sont prises à travers le monde pour accélérer la vaccination contre le coronavirus. L'utilisation d'AstraZeneca reprend progressivement après l'assurance du laboratoire et des organismes de santé sur la sécurité de ce vaccin et son efficacité. Les détails avec Nani Talani.
Le laboratoire AstraZeneca a défendu son vaccin. Il affirme qu'il est efficace à 80% contre le COVID-19 chez les personnes âgées et n'augmente pas le risque de caillot après des essais cliniques menés aux États-Unis. Les experts de l'OMS recommandent aussi l'utilisation du vaccin AstraZeneca dans les pays où des variants sont apparus. Pareil pour l'Union africaine qui avait déclaré qu'elle n'écarterait pas ce vaccin. L'Afrique du Sud a pu vendre le million de doses du vaccin AstraZeneca en sa possession, qui seront distribuées à 14 pays africains. Le Niger a reçu de la Chine une cargaison de 400 000 doses de vaccin Sinopharm, 300 000 tests et d'autres fournitures médicales, a annoncé le gouvernement du Niamey, qui compte lancer la campagne de vaccination à partir du 27 mars. Enfin, le fonds souverain russe a conclu un accord avec un groupe pharmaceutique indien pour produire en Inde 200 millions de doses du vaccin Sputnik V contre le coronavirus. Le président Vladimir Poutine promet de se faire vacciner dès demain mardi.
Israël votera mardi pour ses quatrièmes élections législatives en moins de 2 ans sur fond d'intenses campagnes de vaccination contre la Covid-19. Deux grands camps s'affrontent, les pro et les anti-Netanyahou. Les derniers sondages créditent le Likoud de M. Netanyahou de la première place, suivi de la formation du centriste Yair Lapid. Benjamin Netanyahou compte faire alliance avec la droite religieuse et l'extrême droite, et Yair Lapid avec des partis de la gauche, du centre et de la droite déçus par le Premier ministre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nani Talani.
Le Cameroun veut investir 50 milliards de francs CFA pour développer ses filières cacao-café sur 5 ans à travers le projet FODEC. Investir au Cameroun explique que les bénéficiaires ne recevront pas de l'argent, mais des intrants agricoles, des fertilisants et d'autres besoins de production. Les infrastructures ne sont pas concernées. Yaoundé veut dépasser son objectif annuel de 600 000 tonnes de cacao d'ici à 2025. Au Togo, les travaux d'installation de la centrale solaire photovoltaïque de Blikta sont achevés. Elle portera la capacité de production électrique du pays à 265 MW pour 600 000 foyers et 700 petites et moyennes entreprises. Selon Togo First, le parc solaire de Blita a été construit par Ameya Togo Solar à 262 km de Lomé dans la région centrale grâce à un prêt de 135 millions de dollars de la Banque Ouest-Africaine de Développement et d'un financement du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Pour terminer, au Nigeria, le premier port en eau profonde situé dans la zone de libre-échange de Lagos entrera en service en 2023. Le port de Lekki, commencé en 2018 avec un coût de 1,65 milliard de dollars, est achevé à 48%.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. Le Tchad a été disqualifié des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Selon la Confédération africaine de football, cette décision intervient à la suite de la dissolution inexpliquée de la Fédération tchadienne de football par le ministre des Sports. L'équipe nationale du Tchad était dernière au classement du groupe A en vue des qualifications pour la CAN qui se tiendra en janvier 2022 au Cameroun. La Namibie et le Mali, qui devaient affronter le Tchad cette semaine, se sont vus accorder des victoires sur le score de 3-0. Un accord record sur les droits de télévision du football féminin en Angleterre a été signé avec Sky Sports et la BBC. Selon la fédération anglaise, Sky Sports diffusera jusqu'à 44 matchs par saison et la BBC 22 rencontres au terme d'un accord portant sur 3 ans d'un montant d'environ 7 millions de livres, environ 8,1 millions d'euros par an. C'est la première fois que les droits de la WSL, la Ligue féminine, sont vendus séparément de ceux du football masculin et les 12 clubs féminins de l'élite toucheront une part des revenus. Les clubs de deuxième division bénéficieront également de cet accord qui prévoit que 25% des revenus leur seront reversés. Et puis en RDC, les championnats d'Afrique de boxe zone 3 ouvrent leurs portes ce soir même. Précision avec notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simoyamba.
Et c'est avec la participation d'une dizaine de pays, dont la Libye, premier à fouler le sol de la RDC, une présence libyenne dont se réjouit le président de la zone 3, Bertrand Mendouga.
Parce que de mémoire de boxe en Afrique, je n'ai jamais rencontré de Libyens lors d'une compétition de ce type.
Cette présence des pugilistes libyens confirme le fait que ce championnat de boxe amateur soit également ouvert à d'autres pays du continent au-delà de la zone 3.
Initialement prévu rien que pour accueillir les pays de la zone 3, à ce jour, cette compétition est ouverte à toute l'Afrique. Et ça, c'est la première victoire de la zone 3.
Un motif de satisfaction pour les RDC, première fois hôte de cette compétition, confirme Ilunga Luyoyo, président de la Fédération congolaise des boxe.
La présidence de l'Union africaine se trouve ici au Congo. Et je crois que c'est le premier événement qui réunit presque les Africains ici pour cette fête de la jeunesse. C'est la première fois que le Congo reçoit le championnat d'Afrique.
Si les Burundi, les Kenya, le Cameroun, l'Ouganda, pour ne citer que ceux-là, sont déjà à Kinshasa pour des raisons de Covid-19, le Maroc, lui, a décliné sa participation. Kinshasa, Valdo Simoyamba, VOA Afrique.
Et pour terminer, un mot de la NBA, les Los Angeles Lakers, privés de leur leader star, LeBron James, blessé à la cheville droite, ont été dominés hier soir en NBA par les Phoenix Suns 111-94, tandis que les New York Knicks ont échoué d'un rien en prolongation à domicile face aux Philadelphia 76ers 101-100.
Merci beaucoup, Bagassi, pour cette page sportive. Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Intensification des violences des groupes terroristes dans l'ouest du Niger. Des attaques de djihadistes présumées visant des civils ont fait près de 130 morts en 6 jours. La dernière attaque dimanche a fait 60 morts dans des villages de la région de Tawa, après celui de la région de Tillabéri la semaine dernière. Bagassi Koura a joint à Niamey le journaliste Moussa Aksar, spécialiste des questions de sécurité.
C'est le long de la frontière entre le Niger et le Mali, dans la région de Tawa, c'est une série de villages qui ont été attaqués par les éléments selon nos informations de l'IGS. Ces attaques-là, l'IGS accuse, selon toutes nos informations, les habitants de ce village d'avoir collaboré plutôt avec les autorités nigériennes. Ensuite, comme vous le constatez, il y a eu aussi une attaque dans cette même région, dans la région de Tillabéri, et sur des civils. C'est la première fois qu'il y a eu des attaques sur des civils, ce qui fait un nombre important de populations qui ont été tuées le long de la frontière entre le Niger et le Mali.
Et cette fois-ci, les forces armées n'ont pas été visées?
Oui, les forces armées, les FDS n'ont pas été visées. En ce qui concerne l'attaque de la région de Tillabéri, c'est un conflit intercommunautaire. De l'autre côté, à la frontière, la région de Tawa, et on parle vraiment de représailles contre la population qui collabore avec les autorités locales.
Est-ce que ça pourrait aussi avoir un lien avec l'arrivée annoncée des forces tchadiennes au Niger?
On peut penser aussi que c'est suite à l'arrivée des forces tchadiennes dans la zone de transfrontière, le NGS essaie de déplacer le conflit vers l'IGS essaie de déplacer le conflit sur d'autres régions, notamment la région de Tawa. Et cette zone-là aussi, c'est une zone de prédilection de trafic de tout genre, surtout des groupes terroristes et de trafic de tout genre. C'est dans cette zone, c'est un couloir de passage de trafic de tout genre, ce qui explique peut-être cette attaque sur les civils où on parle de plus de 70 morts.
Au Burkina Faso, mais aussi au Mali, on parle beaucoup avec insistance de négociations entre les populations et les groupes armés. Est-ce que c'est aussi le cas au Niger? Est-ce qu'on parle de négociations entre les populations et les groupes armés?
Pour l'instant, au Niger, on ne peut pas parler de négociations entre les groupes terroristes et les populations. Mais tous les villages qui se trouvent presque dans cette zone sont obligés, sous la menace terroriste, de payer les impôts. Ces groupes armés-là, ça fait au moins plusieurs années que nous avons reçu ces informations, au moins plusieurs mois, que ces populations payent les impôts aux groupes terroristes.
Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Bénin, l'opposante Rekia Madougou est sous mandat de dépôt depuis le 5 mars à la prison civile d'Akpro-Misérété à Porto-Novo. Elle a été inculpée pour financement du terrorisme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ses avocats dénoncent ses conditions de détention et demandent que ses droits soient respectés. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Le FRD, le Front de l'opposition pour la restauration de la démocratie au Bénin, appelle à la libération immédiate de l'opposante Réki Amadougou. Maître Sadi Kualao affirme que la vie de Réki Amadougou est en danger. Il soutient aussi qu'on a restreint de 5 à 3 jours le nombre de visites par semaine que peut lui rendre sa maman. Maître Victorien Olatundi Fadé fait partie de sa défense.
En dehors de ses avocats, c'est uniquement sa mère qu'on a autorisé à lui rendre visite. Ses enfants, encore mineurs, n'ont pas vu leur mère jusqu'à présent. On va jusqu'à violer le principe de la confidentialité entre l'avocat et son client détenu. Cela veut dire que je ne peux pas échanger avec ma cliente sans être suivi par d'autres personnes.
Ses avocats et proches soutiennent que la santé de l'ex-ministre Réki Amadougou s'est détériorée. C'est d'ailleurs pour ces raisons que Maître Sadi Kualao a lancé un appel à l'endroit de la société civile, des représentations diplomatiques et des organisations des Nations Unies au Bénin à aller constater de vue les conditions de détention de l'opposante. Léontine Idou de Rifunga Bénin, une ONG qui lutte pour le respect des droits de la femme, estime que le processus ayant conduit à l'arrestation de la candidate Ricali n'était pas ce qu'il fallait.
Quel que soit ce qui s'est passé, la façon dont l'arrestation s'est produite, ça donne l'impression d'une violence. Et c'est ça que moi je condamne. On aurait dû lui envoyer une convocation en bombe et du fond. Et comme ça, les gens auraient raison. Mais cette façon, ça donne l'impression d'un hold-up, d'un enlèvement.
Dans un communiqué, l'ambassade des États-Unis a indiqué qu'elle suit de très près cette affaire et appelle les Béninois au calme et à la préservation de la paix. Du côté de l'opposition, les appels se multiplient pour demander la libération de l'ex-ministre. C'est le cas de Habib Arnissi, président du mouvement socialiste révolutionnaire et membre du parti USL.
Le gouvernement doit savoir qu'il a la responsabilité de garder en vie notre compatriote. Donc, il est urgent qu'on libère la dame, sans condition, et à sa suite, tous les détenus politiques. On ne peut pas aller aux unes dans ces conditions. On doit stopper le processus.
Du côté de la population, on préfère laisser cette affaire aller à son bout. En termes de sous, demande à la justice de rétablir la vérité.
Lorsqu'on parle de terrorisme, il faut que la lumière soit faite sur ce dossier-là. Le Bénin est un état de droit et la justice doit faire un travail minutieux et montrer si vraiment Madougou est impliqué dans cette affaire-là.
Accusé de manipulation dans ce dossier, le gouvernement répond par la négation. Le ministre porte-parole du gouvernement estime qu'il était du devoir des autorités de prendre leurs responsabilités devant une affaire d'une telle envergure.
C'est une juridiction, après enquête, qui dira si elle est coupable ou pas. Mais lorsqu'un parquet a un dossier dans lequel vous avez deux individus qui disent avoir reçu de l'argent de quelqu'un pour exécuter dans un ordre planifié des citoyens, le gouvernement qui prend à la légère de telles dénonciations, de telles accusations, serait un gouvernement irresponsable.
Les avocats de Réki Amadougou ne ratent aucune occasion de dénoncer les conditions carcérales assez corsées de leur cliente et disent craindre pour sa sécurité vu les restrictions dont elle fait loger dans ce milieu carcéral. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République du Congo, suite à la mort de l'opposant Guy Brice Parfait Kolelas, ses partisans se sont spontanément rassemblés dans les quartiers Bas-Congo et Makelekele à Brazzaville pour exprimer leur tristesse, mais aussi pour manifester leur volonté de poursuivre leur combat pour le changement. Le calme règne dans les quartiers sud de la capitale où il était populaire. Notre correspondant Arsène Séverin s'est rendu au siège de l'UDHU, qui le parti de Monsieur Kolelas.
Brazzaville s'est réveillé sous la nouvelle du décès de l'opposant Guy Brice Parfait Kolelas, principal challenger à l'élection présidentielle. Dans les quartiers de Bas-Congo et Makelekele sans fief, l'air est certes très lugubre, mais le calme y règne. Des dizaines de militants et sympathisants ont pris d'assaut le siège de l'UDHU, son parti Ampisa. Consternés, les militants réagissent dans la douleur.
très très profonde, à une dimension très observée, à tel point qu'on ne peut pas supporter. Quand je me réfère sur ses dernières paroles dans son lit de malade, et voilà, l'espoir de tout un peuple, il s'éteint en un clin d'œil. C'est une douleur qu'on ne peut pas supporter. Nous sommes tous dans la douleur.
Nous avons eu toute une équipe qui a passé la nuit ici pour commencer déjà à faire la compilation des résultats par les fiches jaunes. Donc depuis 3h du matin, on nous a informé que finalement on a perdu notre président, il n'est plus avec nous. On a du coup été traumatisés.
Je me suis réveillée le matin, on m'a parlé de ça. Et du coup ça nous a fait mal. Et je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Vraiment que son âme se repose en paix.
Vous ne voyez pas, suite à cette information, il était question que moi, personnellement, je viens au niveau du siège, sans qu'il y ait plus de la situation.
Oui, là, vraiment, la douleur est profonde, vraiment. Ça veut dire que tout le long de la campagne, on parlait que d'un coup KO. On vient de l'une de autre ce coup KO.
Nombreux ici estiment que le combat initié par Guy Brice Parfait Kolela doit se poursuivre.
La lutte politique continue. Comme disait le docteur Guy Brice Parfait Kolela, un tel monsieur qui mobilise, qui rassemble les masses sans pourtant leur donner 2000 francs ni marinière.
Il s'en est allé, mais ce jeu et le parti qu'il a eu à laisser, là, les militants qui sont là, le parti est tellement organisé, comme lui-même, le leader charismatique, a eu à prévoir.
Nous n'allons pas baisser les bras. On doit continuer la lutte jusqu'à atteindre l'objectif voulu, c'est de libérer le Congo entier. Voilà.
Alors que sa santé avait totalement dégringolé, Guy Brice Parfait Kolela, testé positif à la Covid-19, a attendu 24 heures pour être évacué dimanche en France. Et c'est dans l'avion qu'il a trouvé la mort. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
L'administration Biden est sous pression avec l'afflux de migrants à la frontière sud des États-Unis pour mettre en place rapidement des politiques et des procédures visant à faire face à la situation, en particulier en ce qui concerne les enfants. Le point avec Michel Quinn de la Voix de l'Amérique, le récit est de Jacques Aristide.
Sur la défensive et accusé par les républicains d'avoir provoqué l'afflux de milliers de migrants, le gouvernement de Joe Biden est sur tous les fronts pour tenter de rassurer sur sa capacité à gérer ce qui est décrit comme le premier grand défi de la nouvelle administration américaine. Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure, lors d'un entretien sur ABC, une chaîne de télévision américaine.
Le message est assez clair. Ne venez pas. La frontière est fermée. La frontière est sécurisée.
C'est donc le message de l'administration Biden, alors que le nombre de migrants attendus à la frontière américano-mexicaine est en passe de devenir le plus élevé en 20 ans, d'après le gouvernement, qui indique que ce n'est pas le moment pour les migrants d'effectuer la traversée en raison de la pandémie de Covid-19. Les adultes célibataires qui constituent la majorité des personnes arrivées à la frontière sont expulsés, idem pour les familles. En revanche, les enfants non accompagnés ne sont pas renvoyés, mais des milliers de mineurs sont détenus à la frontière, selon des informations rapportées par les médias. L'administration Biden tente rapidement de leur trouver un logement approprié et soutient qu'elle doit rebâtir le système migratoire démantelé par l'ex-président Donald Trump. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, à nouveau.
Nous reconstruisons le système en répondant aux besoins des enfants vulnérables qui arrivent à nos frontières.
Pour des élus républicains, c'est le président Biden qui a créé la situation. Ils évoquent ce qu'ils disent être son appel initial aux migrants d'Amérique centrale à ne pas venir aux États-Unis pour l'instant. Ils critiquent aussi le démantèlement de la politique migratoire de Donald Trump qui consistait à renvoyer les demandeurs d'asile au Mexique pendant l'examen de leur dossier. Cette politique, ajoute ces élus républicains, décourageait les candidats à l'immigration du Honduras, du Guatemala et d'autres pays d'effectuer le périple. Michael McCaul, un élu républicain du Texas, au cours d'une interview avec la chaîne ABC.
Cela va empirer. Ça va être bien pire durant le printemps, durant l'été. De plus en plus de gens vont venir. Voici le message qui revient. Hey, nous avons un nouveau président. Venez, nous sommes ouverts et les trafiquants sont les bienvenus. Je vous prédis qu'1 million de personnes essaieront d'entrer dans ce pays d'ici l'été.
Les enfants ne sont censés rester en détention que pendant 72 heures avant d'être hébergés dans un site pour mineurs. L'administration a ouvert 3 nouvelles infrastructures la semaine dernière, mais n'a pas encore dit s'il y aura d'autres pour pallier l'afflux de jeunes migrants non accompagnés. Le président Biden a manifesté dimanche son intention de se rendre à la frontière mexicaine et a indiqué que son gouvernement allait insister sur son message demandant aux migrants de ne pas tenter de venir aux États-Unis.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.